Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial Icône et Bertrand Chameroy pour son écran de veille nostalgique. Ensuite, le compositeur et chef d'orchestre Yvan Cassard sera avec nous pour parler de la grande soirée musicale de samedi symphonissime sur France 2 avec une pléiade de vedettes. Quand je dis ça, mais c'est casting 5 étoiles. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une nouvelle aventure pour Spirou et Fantasio. C'est Mathieu Charrier qui va nous raconter. Et puis des recettes savoureuses pour sauver le pain. Le sauveteur, c'est Laurent Mariotte qui va nous donner ses astuces. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Content de vous retrouver, bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est l'heure de l'écran de veille et Bertrand m'a prévenu, on m'a dit, il paraît qu'on va jouer ce matin.
Tout à fait, vous le savez, j'ai toujours des références très modernes. Vous vous souvenez des jeux de 20h sur FR3?
Ah bah bien sûr. Ouais.
Cultissime émission avec notamment Maître Capello et Jean-Pierre Descombes dans laquelle les candidats jouaient entre autres au Ni Oui Ni Non, vous connaissez le principe?
Vaguement.
Bravo, évidemment. Eh bien les jeux de 20h ont fait leur grand retour hier dans le JT de TF1. Eh bien, chers amis, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue au jeu de 20h. Ce soir, nous ne jouons pas au ni oui ni non, mais au ni confinement, ni reconfinement. Le principe reste le même. Si vous prononcez le mot interdit, c'est perdu. Je me tourne vers Gilles Boulot. Vous êtes avec notre candidat du jour, mon cher Gilles.
Bonsoir, Olivier Véran.
Bonsoir.
Olivier, qui exerce la profession de ministre de la Santé et qui va donc jouer ce soir au ni confinement, ni reconfinement. Olivier, êtes-vous prêt? Va-t-il y avoir reconfinement comme on l'entend partout?
Aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h, dont nous espérons des effets positifs.
Bravo Olivier! Je rajoute 100 francs dans le nourrin. Attention, c'est reparti, ni confinement, ni reconfinement. Que ferez-vous si la situation se complique?
Si la situation devait évoluer, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne.
Oh là 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 là, j'ai l'impression que nous avons affaire à un redoutable candidat. Il évite brillamment les pièges, on sent qu'il a fait du média training. Restez concentrés, on continue. Attention Olivier, nous jouons pour une table en formica de bon aloi. Que ferez-vous si la France connaissait un scénario à l'anglaise?
Si nous devions rentrer dans un scénario à l'anglaise, notamment à cause de la diffusion et la propagation de ce variant, alors nous serions dans le cadre d'une vague et nous éviterions cette vague, en tout cas nous la combattrions par les mesures qui ont déjà fait preuve de leur efficacité, qui sont en vigueur en Allemagne, en Angleterre, en Irlande.
Mais quel talent en esquive ! Je crois que nous tenons notre champion Olivier, qui je le rappelle est également champion départemental au jeu de société Tabou. Allez, Olivier, dernière question de ce ni confinement ni reconfinement pour tenter de remporter un canapé d'angle en cuir de vachette. Que ferez-vous si la situation devient un merdier incontrôlable avec l'apparition d'un nouveau variant chaque jour, ce qui est déjà un peu le cas aujourd'hui?
Ça peut aller jusqu'à un confinement si la situation devait l'exiger.
Vous avez prononcé le mot.
Aïe, 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 c'est dommage, c'est perdu. Poussé dans ses retranchements, Olivier a prononcé le mot confinement qu'il avait pourtant évité de dire pendant une bonne partie de l'interview de Gilles Boulot. À une marche de la victoire, c'est ballot. Mais bravo, car vous vous êtes bien battu. C'est pourquoi vous ne repartez pas les mains vides, Olivier. Notre partenaire, les supermarchés Mammouth, vous offre ce magnifique panier garni. A très vite avec un nouveau candidat. A vous Philippe Vandel, à vous Cognacé.
Merci beaucoup Bertrand Chameroy.
Il est totalement fou ce garçon.
Et en duplex, en Eurovision, Eva Rock.
J'espère que je suis en couleur et pas en noir et blanc.
Mais bien évidemment que vous êtes bon. En couleur.
Quoique, vous allez voir, on est peut-être un peu en noir et blanc quand même.
Ah bah justement, oui. Petit indice, c'est votre zapping du week-end et je crois que vous allez finir avec nous la semaine en musique.
Exactement Philippe, vivez la vie d'artiste grâce à deux documentaires musicaux diffusés ce soir sur France 3 et Arte. Alors évidemment, il va falloir faire un choix ou user de la touche replay. Le premier portrait est consacré à Bernard Lavilliers qui jongle avec les mots autant dans ses chansons que dans ses interviews. Un être épris de liberté qui dit ce qu'il veut, quand il veut, jusqu'aux dernières secondes du documentaire.
J'ai passé ma vie à penser différemment. C'est pas maintenant que je vais commencer à me conformer. C'est plus facile pour un loup de se faire passer pour un mouton que le contraire. Ben moi, je mets une peau de mouton de temps en temps. Et hop, j'en mange un. Elle est bonne, j'aime bien celle-là. Bon, on va boire un mojito ou pas?
On avait l'impression qu'il avait déjà commencé.
Petit mojito, voilà. Bernard Lavilliers qui se raconte avec délices à travers ses chansons. Il va revenir sur ses textes, sur ses inspirations musicales, l'influence du Brésil et de la Jamaïque. Et en fait, on le découvre comme on l'imagine au fond, un peu rebelle, un peu provoque aussi, résolument anticonformiste, et puis défenseur des ouvriers, des chômeurs et des enfants soldats. C'est un très beau portrait à voir sur France 3. Sur Arte, c'est une autre histoire en noir et blanc qui vous attend, celle de Brian Jones, premier guitariste des Rolling Stones. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom du groupe, qui a recruté les différents membres, qui a trouvé les premières dates, les premières cachets. Un bad boy au look de dandy.
Beaucoup de gens vont voir les Beatles parce qu'ils sont un phénomène de notre génération. Les jeunes viennent nous écouter pour s'éclater.
Et alors, lui, il s'est éclaté dans sa vie, musicien talentueux, mais peu sûr de lui, et face à Mick Jagger et Keith Richards, difficile de faire le poids. Ouais. Alors, au fil des ans, ils se sont isolés. Sa rencontre avec Anita, sublime mannequin de profession, lui redonne de l'importance. Ils sont le couple incarnant la décadence, comme le raconte le biographe de Brian Jones.
Ce jeu transgressif prend une dimension sulfureuse lorsque Brian, 20 ans après la fin de la guerre et 10 ans avant les punks, s'affiche pour le magazine subversif danois Borge, dans un costume nazi. Se voulant satirique, Brian provoque l'incompréhension en plein Flower Power.
Ils étaient beaux. Ils étaient cruels avec les autres, mais ils avaient un réel pouvoir de fascination. Et cette relation avec Anita a mis de nouveau Brian au centre des Rolling Stones.
Cette guitare que vous avez entendue dans Paint It Black, c'est un trait de génie de Brian Jones, c'est lui qui l'a ajouté. Mais finalement, le génie va sombrer dans l'alcool et la drogue quand il perd Anita, qui, elle, se réfugie dans les bras de Keith Richards. Un destin brisé et une vie qui se fracasse au fond d'une piscine en 1969. Brian Jones a alors 27 ans et il inaugure, vous savez, ce fameux funeste club des 27, ces artistes morts tragiquement au même âge. Portrait magnifique, extrêmement bien écrit, porté par des photos noires et blancs sublimes et des témoignages très émouvants, notamment celui de son père. Bertrand, il est temps de...
Récapituler, bien sûr.
Lavilliers par Lavilliers, c'est sur France 3 à 23h20. La vie de Brian Jones, c'est sur Arte à 22h40.
Merci beaucoup Eva Rock, un morito s'il vous plaît. Merci Bertrand Chameroy, 100 francs
dans le Lourin, bien sûr.
Dans un instant, notre invité, le directeur musical Yvan Cassard. Mais musique d'abord pour continuer, pour enchaîner, c'est Sia sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, paranoid. So undeceived through love and hope, love and hope. We don't have to stay stuck in the weeds.
Courage to change, j'imagine que ça se traduit par le courage de changer. C'était Sia sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec notre invité, l'emblématique compositeur, directeur musical Yvan Cassard. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Yvan Cassard.
Bonjour Philippe.
Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, directeur artistique, tout ça, vous venez du classique. Et vous avez toutefois travaillé avec Mylène Farmer, Goldman, Aznavour, Céline Dion, Florent Pagny, et pas que. Juste pour situer, à Noël, vous étiez premier, ou vos productions étaient premières, des ventes jazz avec Nathalie Dessay, chante Nougaro, premier des ventes classiques avec Roberto Alagna et Caruso, et deuxième des ventes générales avec le disque symphonique de Johnny Hallyday. Et là, votre actualité, c'est Symphonissime, c'est demain soir, samedi, sur France 2 à 21h. Vous n'êtes pas le présentateur, c'est Stéphane Bern, mais encore davantage, vous êtes le maître d'œuvre, le chef d'orchestre. C'est une émission très ambitieuse, je l'ai dit, racontez le principe de l'émission. mission ?
Le principe de la mission, c'est de la variété, des grandes chansons, des standards, mais aussi des chansons, des tubes plus récents, tout revisité avec un orchestre symphonique. De la musique live avec 80 personnes.
C'est écrit par vous ?
Oui.
Les orchestrations,
alors,
les adaptations ?
Beaucoup par moi, mais aussi j'ai une équipe de haut vol, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, et l'orchestre c'est très long, donc j'ai plein d'amis qui m'ont rejoint pour m'accompagner dans cette aventure quand même très, très ambitieuse.
Combien de musiciens ? Ça veut dire combien de lignes à écrire ? Parce qu'il faut écrire pour les voix, pour les cordes, pour
ouais,
tout.
C'est entre 25 et 30 lignes. Sur la même note, voilà. Ouais. Verticalement, c'est 25. C'est un peu de temps. On se dit pas, tiens, quelle chanson on va faire, et puis c'est rendez-vous dans une heure. Ça
et
prend
combien
un peu
de musiciens
temps.
Sur scène ?
On est entre un peu plus de 60-65.
Les invités, qui seront-ils ? Il y a du casting là.
Ouais, on a un plateau exceptionnel, hein, beaucoup de chance. Julien Doré, Florent Pagny, Patrick Fiori, Christophe Maé, Pascal Obispo, Alain Souchon, Camélia Jordana, Carla Bruni, Salvatore Adamo, Jen Berking, Olivia Ruiz.
Vianney. Vincent Niclot, Patrick Fiori, je sais pas si on a
Ben, ouais. Léodie Frégé,
Alain Souchon.
Ah oui, je crois qu'on l'a. Je
d'accord.
L'ai, voilà. Non, on a beaucoup de chance.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est après la prestation de Dany Briand qui chantait Je me voyais déjà. Il vous embrasse pas et vous faites juste un check avec le poing. Je dois dire que c'est assez appréciable pour les téléspectateurs, parce que grâce au Covid, on perd pas de temps avec les interminables embrassades des gens dans la chanson façon showbiz à l'ancienne. Alors je vais donner les trois premiers chanteurs programmés pour la soirée. D'abord Vianney avec une chanson à lui tirée de son dernier album, C'est beau papa. Ensuite Dany Briand, Je me voyais déjà. Et enfin Élodie Frégé avec Ben, anciennement l'oncle Soul, La belle vie. Comment vous avez composé l'ordre ?
C'est des histoires d'énergie, et voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités, pour être très honnête, c'était compliqué, mais c'est juste des espèces de rapports, parce que ce qui est intéressant...
J'ai mal posé ma question. Ouais. Vous avez fait l'ordre à l'avance, ou alors vous avez tout tourné, et ensuite vous avez changé l'ordre des séquences,
non,
un peu
oui,
comme
voilà,
vous
vouliez. On s'est laissé la liberté de changer au dernier moment, parce que ça voilà, on a, c'était le plus important pour nous, c'était les chansons, le répertoire et la variété dans ce répertoire.
Image spectaculaire, on va parler de variété de sons. Image spectaculaire sur le titre de Julien Doré, La Fièvre. Il y a un joueur de marimba. Vous pouvez décrire le marimba, c'est entre le xylophone et le vibraphone, c'est ça ?
Oui, le marimba, c'est un gros xylophone qui va un peu plus grave, avec des plus gros, des planches en bois un petit peu plus épaisses, qui fait que c'est un son beaucoup plus doux, plus moelleux.
Et avec des tuyaux par en dessous. Et ce qui est impressionnant, c'est l'arrangement. Une nouvelle version du morceau La Fièvre, on va l'entendre. D'abord le marimba et le violoncelle, puis les cordes, puis les cuivres.
Le monde a changé et s'est déplacé quelques vertèbres. Où est-elle l'astéro caché dans son dos, attendant la fièvre?
Mais si on a la chance d'avoir une bonne écoute, c'est très impressionnant.
Ouais, je suis content que vous ayez choisi cette chanson, parce que c'est un bon exemple de ce qu'on a voulu faire dans ce programme. C'est-à-dire que c'est une chanson récente, et c'est intéressant de montrer que sur une chanson récente, un tube récent, on peut aussi travailler avec de l'orchestre et lui donner un éclairage. Et cette chanson qui est autour de l'écologie, la nature, et ben d'avoir un orchestre, c'était passionnant. Et en plus, Julien a été vraiment formidable. C'est-à-dire qu'il a lui-même eu une envie et m'a envoyé une première maquette sur laquelle j'ai rebondi et j'ai fait cet arrangement. C'est toute l'histoire de cette émission, c'est des rapports entre artistes, travailler avec eux et faire le mieux possible.
Puisque vous parlez de Julien Doré qu'on vient d'entendre, quel effet ça fait de chanter avec un orchestre symphonique plutôt que son groupe avec 4 ou 5 ou 6 musiciens ? Eh bien, voici la réponse de Julien Doré.
Quand on est accompagné d'un orchestre comme celui-ci, c'est vrai que c'est à la fois extrêmement stressant, parce qu'on a envie d'être à la hauteur du travail, du talent, et c'est extrêmement porteur. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme s'il y avait un corps à part qui est celui de la musique et qui vous porte. Et vous avez vraiment le sentiment que ce corps-là, en l'occurrence cet orchestre et l'arrangement qu'a fait Yvan Cassa, sont bien plus forts que vous et sont là pour vous aider, mais sont bien plus forts que vous.
Julien Doré qui se dit stressé et porté, est-ce que c'est votre cas aussi? Ou est-ce que vous êtes seulement porté ou alors seulement stressé parce que c'est vous le patron?
Non, moi, même si je suis stressé, je ne le montre pas parce qu'on accueille les artistes, ils nous font la joie d'être là et c'est toujours un moment de tension d'avoir autant de musiciens. L'orchestre a une image pour un artiste pop, il se dit mon Dieu, ça va être dur, ils vont me juger, c'est des musiciens classiques et tout ça. Donc il faut, moi, c'est de, mon but depuis des années et des années, c'est de faire tomber cette barrière avec l'orchestre. Que ça soit pour les artistes, pour le genre, pour l'esthétique, etc. Donc au contraire, j'ai essayé de leur dire vous inquiétez pas, on est là, d'avoir le sourire et même si j'étais stressé parce qu'il y a des timings et c'est compliqué, ça s'est très très bien passé.
Et on va entendre notre premier violon, c'est Hélène Manarino et vous allez voir que vous risquez d'être porté. À tout de suite, Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Yvan Cassard avec nous, compositeur, directeur artistique, chef d'orchestre. Il est capable de diriger un orchestre de 70 musiciens et un chœur de 30 voix. Mais là, il me dit, hors antenne, il me dit, ah, c'est le moment où je dois avoir peur, mais pas du tout. C'est Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel.
Notre soliste, bonjour, c'est à vous Hélène.
Bonjour Yvan Cassard, n'ayez pas peur, tout va bien. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, vous avez fait de la musique votre vie, vous donnez le rythme, la cadence. Revenons ce matin sur cette partition. La vôtre, votre vie, Yvan Cassard. Yvan Cassard, que l'on a souvent nommé Yvan le Terrible. Parfois un peu indiscipliné, c'est vrai. La seule chose qui vous calmait, c'était quand vous entendiez de la musique. Vous avez tout de suite donné le tempo, ça sera la musique et rien d'autre. À l'âge de 2 ans, vous vous amusiez à faire de la batterie sur un carton. Votre grand-mère vous emmenait régulièrement dans des magasins de jouets. Mais c'était des instruments que vous choisissiez. D'ailleurs, quand vous avez reçu un train électrique en cadeau, vous l'avez jeté par terre.
Incroyable.
Vous aimiez lors des bals vous asseoir près des musiciens, les écouter et ne plus bouger du tout, seulement à l'âge de 2 ans.
Ah ouais, à 2 ans vous alliez dans les bals.
Mais c'est mon père était un batteur amateur qui faisait des voilà.
L'ambiance, vous avez toujours su la mettre, notamment lorsque vous partiez dans vos colonies musicales, les spectacles aussi que vous inventiez avec vos amis, c'est vous qui dirigiez évidemment. À l'âge de 7-8 ans, lorsque l'on vous a inscrit au conservatoire, il n'y avait plus de place dans la classe de piano, vous avez donc commencé par la clarinette. Mais l'une des premières mélodies que vous avez jouées, c'était ça.
Ah, c'est vrai.
Wow. Vous faisiez le piano ou la clarinette?
Non, je la faisais au piano.
Au piano. Mais vous faisiez un petit peu disputer quand même.
Oui,
quand
oui, c'est
ça.
Vrai.
Alors
c'est
d'autres sont, ont marqué votre enfance, Yvan Cassard, celui du basket. Mais c'était compliqué pour vous de jouer à cause de vos doigts pour le piano. Il y avait également le baby-foot, votre générique préféré, Starsky et Hutch, que vous aimiez regarder peut-être en dégustant un camembert. Puis c'est ce que vous mangez tout le temps.
Les dossiers que vous sortez,
mais c'est pas possible.
Mais c'est énorme le camembert.
Mais oui, c'est vrai, passion mais... camembert, pour Yvan Cassard.
C'est vrai.
Alors, Yvan Cassard, accélérons, passons au refrain. Toutes ces notes qui rythment votre vie aujourd'hui, de votre passion pour les bons vins, la bonne gastronomie, plaisantez souvent en disant que votre signe de reconnaissance et votre notoriété, ce sont vos cheveux.
Oui.
Vos cheveux, vous en prenez soin, coiffeur une fois par semaine pour les entretenir.
Voilà. Je suis une vraie fille.
Et Philippe Vandel fait pareil.
Non, une fois par an.
Bosseur avec une capacité de travail inqualifiable, vous pouvez ne pas dormir. En ce moment, vous avez ce grand projet musical autour des océans. Vous vous autorisez quelques interludes pour jouer au ping-pong, au backgammon, pour regarder les émissions politiques que vous adorez, lire le livre de Barack Obama qui est sur votre table de chevet.
Et c'est tout.
Ou alors, écoutez cette chanson. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still. Johnny Mitchell.
La plus belle chose de la Terre, ça.
Both sides now.
Ah, vous êtes ému d'entendre ça.
Ah, j'aime trop.
Et il faut que ce soit cette version.
Oui, parce que j'adore Johnny Mitchell, cette chanson est très belle. Mais c'est un de mes maîtres, Vince Mendoza, qui est un arrangeur exceptionnel, qui a fait cette version. C'est magnifique. C'est magnifique.
Alors,
j'aimerais faire ça.
Parfois, dans la vie, il y a des bémols. Et oui, alors je tiens à préciser que ça va beaucoup mieux. Mais vous êtes aussi le chef d'orchestre de la perte des cartes bleues. Notamment ce jour où vous êtes rentré de Londres. Vous êtes dans une panique incroyable. Vous n'avez plus vos cartes. Vous cherchez partout. Vous êtes persuadé qu'elles sont dans le bac de la sécurité. Vous savez, quand on prend l'Eurostar... Vous faites opposition de toutes les cartes. Et deux jours plus tard, on les retrouve dans les poches de votre veste.
Je suis pas doué avec
ça. Parfois, elles sont en bas de la penderie. Mais quand même, ça va beaucoup mieux, Yvan Kassari, il faut le dire. Alors, les musiques se retiennent, s'écoutent plusieurs fois, se partagent. Et il y a des refrains que l'on n'oublie pas. Vos dîners avec Claude Nougaro, vos repas chez Denise, près des Halles à Paris, quand vous finissiez très tard. Ou alors chez l'ami Louis, gourmet, vous êtes... Vous auriez pu ouvrir un restaurant, gérer encore une fois une autre brigade. Présent pour vos amis fidèles, en amitié, passionnés, admiratifs aussi, vos maîtres absolus, votre maître absolu, Ennio Morricone. Il y a 3 ans à Nîmes, il logeait dans le même hôtel que vous. Vous n'osiez pas venir le voir, vous vous cachiez dans la cuisine. Et puis vous êtes allé, vous avez discuté, vous avez fait une photo ensemble. Ça reste un moment suspendu et magique pour vous. Yvan Kassar, vous dirigez, vous aimez rassembler votre famille par exemple, partir dans votre Bretagne ou à Saint-Rémy de Provence. Vous êtes le chef d'orchestre avant tout de toute votre famille. Une musique douce et sereine, grâce à vous le rythme ne s'est jamais perdu. Et vous continuez de composer, pour nous et les autres, la plus belle des mélodies.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Yvan Kassar, réaction.
C'est très joli, franchement, j'en suis ému.
Ben, j'ai vu ça, ouais, vous étiez un petit peu secoué.
Ah oui, vraiment. Merci, bravo. Je ne sais pas comment vous savez tout ça, c'est terrible.
Elle sait tout, elle connaît beaucoup de choses. Vous avez un petit peu la larmichette.
Oui, ouais, hein, c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est ma vie, mes passions. C'est vrai que j'aurais adoré aussi la cuisine, je trouve ça absolument... Ça se voit un peu d'ailleurs, la cuisine. Mais c'est pareil, c'est donner du bonheur aux gens et travailler ensemble, quoi, travailler ensemble.
Juste un mot, vous avez démarré par la clarinette, vous avez été clarinettiste professionnel.
Oui, j'ai été clarinettiste, parce que c'est vrai que mon histoire avec le conservatoire de Rennes a été un peu contrasté. On m'a trouvé trop vieux, il n'y avait plus de place en piano, alors que le piano, c'était vraiment l'histoire de ma vie.
Et vous l'avez regretté ?
Je ne l'ai pas regretté parce que c'est très intéressant. La clarinette m'a ouvert l'orchestre symphonique et de jouer. C'est un autre aspect. C'est-à-dire, quand vous êtes clarinettiste, en plus, j'avais un professeur un peu compliqué, et ce qui fait que je me suis retrouvé à le remplacer dans l'orchestre de Rennes. Et du coup, je me suis trouvé à l'intérieur de l'orchestre, à regarder les chefs d'orchestre et à jouer dans la masse. Et quand vous écrivez ou que vous avez aimé ça, c'est un autre rapport, on apprend autrement et on vit d'autres sensations. Et ça m'a beaucoup aidé ensuite, en fait. Donc du coup, c'est pas un regret, mais c'est vrai qu'au début, j'ai ronchonné parce que j'avais envie de faire du piano. Donc voilà, J'en faisais en cachette et je jouais La Panthère Rose et toutes les séries américaines.
C'est ça.
Quel plaisir. Merci Nicolas Souvent pour La Panthère Rose qui redémarre. Merci Hélène Manarino.
Merci.
Bon week-end Hélène.
Merci pour le cadeau.
Yvan Kassar, reste avec nous et vous restez avec nous. À tout de suite, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yvan Kassar, le chef d'orchestre à tous les sens du terme de l'émission Symphonissime. C'est demain soir, samedi, sur France 2 à 21h. Émission très ambitieuse, ça dure 2 heures. C'est très très bien filmé par pas moins de 2 réalisateurs. Et ce sont des chanteurs qu'on connaît, presque quasiment tout le gratin français, qui revisitent des chansons sur un mode symphonique. Autre passage formidable, c'est Nathalie Decelle. Elle est cantatrice, elle chante avec Naïma Anadouri. J'espère que je prononce bien son nom. Naori, pardon. C'est sa fille, parce qu'elle a le nom de son père. J'en parle pas pour faire carnet rose et dire qui est la maman de qui, mais parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. Elles ont quasiment la même voix. There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, anything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. Quand elle chante à deux voix, elle chante à deux voix, mais la voix qu'on entend, ce sont deux voix en fait, elles se succèdent avec la même voix.
Exactement.
C'est quand même assez incroyable, c'est comme les Dutronc.
Il y a un air de famille, il n'y a aucun doute. Elle est surdouée, Naïma, elle est vraiment surdouée. Elle est comme sa mère. Si vous écoutez sa mère ou son père, ils vous diront qu'elle est encore plus douée, mais c'est, je ne le dis pas trop parce que comme elle est jeune, il ne faut pas qu'elle prenne la grosse tête.
Vous avez raison.
Elle a vraiment ce style inné, cette voix naturelle de comédie musicale que j'adore.
Petite question, il y a des chansons en mode acoustique improvisé ou à moitié dans le foyer du théâtre, c'est très réussi. Très étrange aussi, il y a des micros devant les guitares, mais les chanteurs chantent sans micro. Il y a un truc,
il y a un petit micro cravate qu'on ne voit pas.
D'accord, voilà. On ne le voit vraiment pas. Je me suis posé la question. Et vous connaissant, j'imaginais pas du playback dans cette émission. Non, ça me semblait impossible.
C'est le pari de cette émission. Tout est live, tout est joué. Il y a rien de vrai.
Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Tout est live avec vous.
Tout est live, toujours.
C'est la sélection de sorties de bande dessinée. Et vous commencez avec la nouvelle BD de Chabouté, ça s'appelle Yellow Cab.
Exactement, Chabouté, le maître du noir et blanc. Ils sont peu nombreux à savoir aussi bien manier cette couleur, finalement. Ouais. Alors, dans Yellow Cab, il adapte le livre de Benoît Cohen, réalisateur qui a décidé de devenir chauffeur de taxi à New York. Je ne sais pas si vous aviez lu ce bouquin. Ça a l'air facile comme ça, je peux vous dire qu'il n'en est rien. D'abord, il faut passer une formation obligatoire, louer son taxi, évidemment, ça coûte un bras. Et surtout, conduire dans New York, vous imaginez l'angoisse, avec des forces de l'ordre qui ne vous laissent absolument rien passer. Un Yellow Cab dans Big Apple, c'était un décor et une histoire rêvée pour un auteur de bande dessinée. Écoutez justement Chabouté.
New York est très graphique, c'est juste un plaisir à dessiner. Après, au bout de la 7000e fenêtre, on sature un peu, quoi. L'idée de départ, c'était, est-ce que je vais arriver à... En fait, les gens défilent dans ce taxi. Est-ce que je vais arriver à un certain moment à laisser assez de portes ouvertes au lecteur pour que chaque lecteur, avec chaque personnage, sans qu'il y ait de dialogue ou d'indication, se fasse sa propre petite histoire sur cette personne qui monte dans le taxi pendant une course, quoi. J'ai vraiment pris un super pied à dessiner ça, quoi.
Et nous, on prend un super pied à le lire. Franchement, c'est vraiment Taxi Driver en bande dessinée. Je vous le disais, Chabouté, c'est à mon sens l'un des plus grands dessinateurs d'aujourd'hui dans des styles assez différents. Vous avez Tout Seul, où il nous racontait l'histoire d'un gardien de phare. Il y avait Un peu de bois et d'acier, c'est celle, l'histoire d'un banc public qui voyait défiler les promeneurs. Dans Landru, il revisitait le fait divers bien connu. Donc vraiment, lisez, relisez tout Chabouté si vous ne connaissez pas. Et notamment sa dernière bande dessinée qui s'appelle Yellow Cab, vous trouvez ça chez Vent d'Ouest.
Autre titre dont vous vouliez nous parler ce matin, Mathieu, c'est musical, ça s'appelle Sur un air de fado.
Ouais, le fado, vous savez, c'est cette petite musique portugaise typique signée notamment Amalia Rodrigues. On est dans l'ambiance, l'histoire se passe donc à Lisbonne, à la fin des années 60. Le Portugal vit sous la dictature de Salazar et notre héros s'appelle Fernando Pais. C'est un médecin, un bocadra, qui exerce dans un quartier plutôt aidé d'ailleurs. Lorsqu'un jour, alors qu'il se rend au siège de la police politique, il va tomber sur un gamin révolutionnaire qu'il va vouloir prendre sous son aile. Sauf que ce gamin lui renvoie la figure parce qu'il est devenu, le replonge dans son passé lorsque lui aussi rêvait de révolution et de liberté. Et petit à petit, son cœur, qui était devenu un peu sec, va se remettre à battre. C'est une BD qui nous plonge dans deux époques, sous deux régimes politiques différents, et qui interroge nos convictions, vous savez, nos rêves de jeunesse, nos engagements, qui parfois, en vieillissant, s'estompent. Avec cette lumière de Lisbonne si belle en dessin, sur un air de fado, vous trouvez ça chez Dargaud.
Vous m'avez passé le livre, c'est signé Nicolas Barral. Et vous terminez, Mathieu, avec un nouveau Spirou.
Oui, dans la collection Le Spirou 2. Vous savez, c'est un personnage qui a été beaucoup repris, Spirou. Et là, ce sont donc des grands odeurs qui reparaissent notre groom préféré. En l'occurrence, c'est Christian Durieux. Alors, Fantasio, figurez-vous, est devenu groom lui aussi au Pacific Palace. Il est devenu la tête de turc du directeur qui a accepté de l'embaucher parce que Spirou l'a un petit peu forcé. Et à la télévision, la journaliste Sécotine annonce que le Pacific Palace va accueillir un dictateur en fuite qui s'appelle Ilyex Korda avec toute sa famille, dont sa fille Elena, qui, il faut bien le dire, va déclencher un véritable coup de foudre chez nos Spirou et Fantasio. Évidemment, en parallèle, ils vont s'intéresser au cas de ce dictateur. Voilà, c'est un personnage qui, depuis quelques années, a été brillamment repris en main par les éditions Spirou, confié à de nouveaux auteurs. Et figurez-vous qu'en plus pour ce titre, je trouve ça génial, les éditions Dupuis ont demandé au groupe Cocoon de composer une bande-son pour accompagner la lecture de l'album. Écoutez. I just keep coming back and I don't know why. Still makes me cry. Voilà, vous imaginez ce week-end dans le salon, vous prenez Pacific Palace chez Dupuis, vous lancez la bande-son de Cocoon. C'est sympa comme ça quand les formes d'art se croisent.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. Yvan Cassard, la BD, c'est votre univers, c'est votre truc?
Non, moi je suis vraiment basique de chez basique, je reconnais, mais j'ai beaucoup d'enfants. Mais alors j'ai eu la chance, j'ai fait deux documentaires qui étaient sur François Bourgeon. Alors du coup, ça m'a permis de voir à quel point c'était vraiment incroyable le dessin. Et c'est vrai que je vous entends parler, vous donnez tellement envie. Et c'est magnifique, c'est vrai que c'est magnifique.
Quel compliment, merci beaucoup Mathieu Charrier.
Merci.
Mathieu, impossible de terminer cette indispensable. Oui. Sans parler de Jean Graton, monument de la BD, le dessinateur de la série Michel Vaillant, qui est mort hier. Il avait 97 ans. Il avait inspiré de nombreux pilotes et certains lui ont rendu hommage hier, comme Alain Prost ou Jean Todt, le président de la Fédération, qui a tweeté.
Et son personnage, figurez-vous, va lui survivre puisqu'il a déjà été repris, Michel Vaillant, par pas mal d'auteurs, notamment le dernier tome qui est assez formidable. Donc continuez à lire Michel Vaillant, c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à M. Graton.
Comme Spirou. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Vous restez avec nous, Yvan Cassard. On va parler cuisine, ça va vous plaire, avec notre deuxième indispensable. Ce sera Laurent Mariotte, mais d'abord musique, Grand Corps Malade et Louane.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'eau.
pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance. Chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Derrière le brouillard, c'était Grand Corps Malade et Louane sur Europe 1. Louane qu'on retrouve dans Symphonissime demain, samedi, sur France 2 avec Yvan Cassar à la baguette. Dans un instant, notre deuxième indispensable à la baguette, Laurent Mariotte et du pain pas perdu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yvan Cassar, Yvan, dont Hélène Manarino nous a révélé que vous étiez un amateur de bonne chair, cuisinier à vos heures, fin gourmet.
C'est vrai.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour Yvan.
Bonjour. On va parler Laurent. D'une tendance et d'une belle tendance, l'anti-gaspi. Et vous souhaitez, Laurent, nous sensibiliser sur un bien national qu'on gaspille facilement, le
ah oui.
pain. Les boulangers sont les premiers pour recycler le pain de la veille, dites-vous.
Exactement, une grande cause nationale, le pain. Écoutez, tiens, chiffre, 320 baguettes par seconde sont consommées et produites en France. Ça fait 10 milliards par an. Donc c'est vous dire qu'on aime le pain. Et il y a une étude de 2016, effectivement, qui montre que sur 10 pains fabriqués par le boulanger, il y en aura toujours minimum un qui va rester sur le carreau. Alors attention, parce que les boulangers, ils font un gros effort de guerre contre le gaspillage. Hein. Ils redistribuent beaucoup de pain, d'ailleurs, aux associations. Plus de la moitié de ces invendus, sinon, est tout simplement détruite. Donc c'est vrai que c'est une denrée hyper périssable, le pain, comme les viennoiseries, mais on peut le recycler.
Alors comme disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme.
Ouais.
Démonstration de nombreuses initiatives que vous avez repérées, Laurent, pour ne pas gâcher, initiatives qui viennent des boulangers, de leur part.
Ben, la première, c'est de faire du bon pain, déjà.
Ouais.
Un bon pain avec des farines anciennes, des farines de blé complètes, avec du levain, avec un temps de repos accordé à la pâte, parce qu'il faut donner du temps au temps pour avoir une belle mie alvéolée. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ce pain-là, il va se conserver longtemps. Il ne va pas devenir dur comme la baguette faite à la va-vite et qui devient dure au bout de 12 heures.
Ouais.
Donc le premier truc anti-gaspi, c'est d'acheter vraiment du bon pain.
Du pain, donc pas de baguette ou pas de mauvaise baguette.
Ou des bonnes baguettes. La baguette se conserve moins, mais une belle miche, je vous assure, je vous en ai apporté, vous allez voir, ouais. Ça se conserve presque une semaine, ça. Alors c'est vrai que la première façon de le recycler, c'est de faire de la chapelure. Moi, j'achète plus de chapelure à la maison. Je fais ma chapelure moi-même avec mes restes de baguette ou de miche. On le met au four, le pain, et on le passe au mixeur. On a une poudre très fine. Ah oui, elle est bonne, cette miche. Hein.
Délicieux le pain que vous avez apporté.
Ouais, c'est du pain d'aujourd'hui et de la veille. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. On peut faire de la farine avec du pain, figurez-vous. Il y a Franck Ouellet en 2017, qui est un Bordelais, qui propose aux boulangers une machine qui transforme le pain rassis en farine. Ça s'appelle la crumbler. To crumble, ouais, ça veut dire émietter en anglais. Et la machine, elle peut mixer jusqu'à 100 kilos de pain. Et ensuite, cette farine, eh bien, on en fait des gâteaux ou des nouveaux pains. Il y a deux filles aussi, une start-up à Rennes, qui s'appelle Collectou. Elle collecte les invendus de pain pour en faire des préparations prêtes à l'emploi, destinées aux professionnels de la restauration. On peut faire des cookies aux pépites de chocolat, des muffins, des cakes salés. Bref, voilà, on le recycle.
Écoutez ça, j'approche du micro, écoute ça comme ça cristouille.
Voilà, bah alors vous voulez que je vous en parle?
Attends, parle pas en même temps.
Voilà, c'est magnifique ça. Voilà, ça c'est le pain de Benoît Castel que vous êtes en train de croquer. C'est le pain d'hier et d'aujourd'hui. Il fait ça avec de la farine de pain. Il y a 30% de farine et de chapelure en fait qui est faite avec le pain de la veille. Il a mis un an pour mettre ça au point. Vous avez vu comme la croûte, elle est cassante.
C'est un délice.
Et la mie est humide. Eh bien ce pain-là, vous le conservez une semaine.
Je peux vous dire, c'est la première fois de ma vie que je mange du pain comme ça.
Le pain aussi d'hier croustillant et d'aujourd'hui.
Dessus, et aussi humide comme vous dites dessous.
Il y a du temps de repos et la mie est très humide effectivement. Et c'est une belle prouesse ça, parce qu'effectivement une croûte cassante et croustillante avec une mie alvéolée et légère et humide, c'est très agréable en bouche. Donc voilà, on peut en faire des choses. Il y a 30% de chapelure additionnée à de la farine.
Et vous avez porté de la bière?
Oui, exactement. C'est à Perpignan. Il y a Laurent Botta, qui est un ancien professeur de chimie, qui s'est lancé dans le brassage de bière à base de pain. Ça s'appelle la Boc. Il remplace une partie du malt, en fait, par de la farine issue de pain invendu. Et ça, c'est une bière lilloise que je vous ai apportée. Ça s'appelle le pain de minuit. C'est une bière au pain. Alors, on ne va pas faire goûter à Yvan, malheureusement, parce que. Non, il est allergique au gluten.
Ah, il y a du gluten dans la bière au pain. Ah mince. Et ouais, il y en a.
Ah ben, il y en a, bien sûr. Oui. Il y en a. Et comment qu'il y en a? C'est une bière au pain qui est brassée à partir de pain sec invendu. Elle est refermentée en bouteille artisanalement. Et ça donne une bière blonde qui est ronde. Vous pouvez l'ouvrir. Hein, j'ai apporté le décapsuleur si vous voulez.
Bah non, mais on a pas le droit de la goûter. Ne nous faites pas souffrir.
Mais vous avez le droit. Vous n'êtes pas allergique.
Non, mais moi, j'ai une émission à terminer.
C'est pour ça. Une belle reprise. 6 degrés d'alcool. Voilà, 6 degrés 7. Voilà.
On me dit en régie, ce sera pour la régie.
Oui, voilà,
on est très bien là. Salut Antoine Janton, Nicolas Souvent et toute l'équipe.
Il y a un pack pour la régie.
Il y a un pack. Puisqu'on est dans le liquide, vous m'avez dit on peut faire une eau de pain.
Exactement, c'est Hervé Normand qui est un artisan boulanger à Boistruel dans l'Eure qui fait du pain liquide. Alors il ne l'a pas vendu encore, il ne le commercialise pas, mais je l'ai goûté, c'est délicieux, ça ressemble un petit peu au kombucha, vous savez, cette boisson à base de thé vert fermenté ou au kéfir qu'on fait dans certaines familles. Eh bien il fait ça avec des invendus séchés, de biscottes séchées, il les transforme en chapelure, il met de l'eau, du levain cru et ça donne une boisson vivante fermentée comme ça qui est très agréable et il travaille dessus pour pouvoir la commercialiser effectivement.
Dernière idée pour recycler le pain à la maison?
Un gratin de pain, tout simplement avec du pain rassis. Vous l'imbibez dans du lait, vous le mettez dans un plat à gratin avec une fondue de poireaux, un petit peu d'ail et des herbes. Vous mettez du lait et des œufs par-dessus. Votre pain imbibé à la surface, du comté râpé et on fait gratiner tout le monde au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Je vous assure que c'est délicieux, vraiment.
J'aime bien comme vous faites. Mais tout le monde au four, tout ça au four.
Mais tout le monde au four, oui, absolument.
On met pas des gens au four.
Non,
demain,
mais
la
gratin,
table des bons vivants, il y aura tout le monde.
Il y aura tout le monde, effectivement, et on va faire une belle spécial bouillon avec le chef William Ledeuil. Du chic, du rustique, de l'exotique, il y en aura pour tous les goûts. Et c'est sans gluten.
Génie absolu, William.
Ouais, William Ledeuil, un de nos plus grands chefs cuisiniers.
Absolument.
Et quelqu'un qui, pour reprendre une métaphore boulangère, viendra casser la croûte avec nous, ce sera le chef, il adore cuisiner, le médecin urgentiste Patrick Peloux.
Voilà. Exactement, il y a urgence et urgence aussi à dire que la bière, ça se consomme avec modération.
Absolument.
Merci beaucoup Laurent Mariotte, à très très vite. Dans un instant, Culture Média, la dernière partie avec Yvan Cassard. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie du chef d'orchestre Yvan Cassard, chef d'orchestre à double titre, puisque c'est vous un peu qui pilotez l'émission Symphonissime qui sera demain, 2h de grande musique et de grandes chansons françaises sur France 2. On va dire un mot de votre carrière, parce que vous n'êtes pas arrivé là par hasard, marqué personne n'arrive jamais là par hasard, mais vous avez quand même collaboré avec Mylène Farmer, avec Nougaro, avec Florent Pagny, et surtout Johnny Hallyday. Par exemple, c'est vous qui étiez aux manettes au Stade de France en 98. Le son, la taille, l'ampleur. Vous avez travaillé combien de temps avec Johnny? Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'il vous a appris, vous qui veniez du classique, avec une formation parfaitement orthodoxe, comme le conservatoire?
Ouais, j'ai travaillé plus de 15 ans. Enfin, on ne s'est jamais quitté, parce que même quand j'ai un peu arrêté, j'ai repris sur les dernières années. Donc c'est vraiment, depuis 98, ça a été une immense aventure dans ma vie. Et assez impromptue, finalement, parce que je n'étais pas un garçon du rock'n'roll. Et puis finalement, quand ils ont monté ce spectacle, ils cherchaient quelqu'un. Et puis du coup, il s'est trouvé que c'était moi. Et la preuve, c'est que la première chose que j'ai faite, c'est d'imposer un orchestre au milieu du Stade de France en 98, parce que ça me tenait à cœur. Mais donc, c'était et je pense que c'est pour ça que ça a tenu aussi longtemps, c'est que j'étais pas un guitariste et que je venais pas de son univers. Donc, du coup, on était un bon duo. Il me challengeait. Et au début, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ma musique? Et ce qu'il m'a appris, c'est de m'accrocher et de tenir à ce que j'avais dans la tête et à me surpasser, parce qu'il était très, très exigeant. Les débuts ont été difficiles avant qu'il me fasse confiance. Ça a été compliqué parce que justement, on se ressemblait pas. Mais du coup, est née cette confiance mutuelle et on a réussi, je pense, à toutes ces années à travailler et à progresser ensemble. Et c'est un immense chanteur. Enfin, pour moi, c'était un cadeau du ciel parce que une voix pareille, un interprète pareil, il se prêtait à tous les styles.
Alors c'est vous également qui avez réalisé son dernier album posthume, symphonique, carton au niveau des ventes, plus de 500 000, quoique le précédent ait fait 2 millions dont vous étiez également occupé. On va entendre un extrait, c'est le titre Diego. Alors c'est Johnny qui chante évidemment, mais c'est vous, Yvan Cassard, qui avez écrit après coup les arrangements et qui dirigez l'orchestre symphonique.
La loi du plus fort, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, et jamais.
Comment vous avez travaillé sur cet album? Comment vous choisissez les morceaux? C'est que des titres avec lesquels, sur lesquels vous aviez travaillé avec Johnny.
Voilà, cet album, c'était juste rendre hommage et poursuivre l'aventure, aller au maximum en studio sur tout ce qu'on avait fait avec orchestre, mais pas en studio, sur scène.
Parce qu'il voulait le faire, lui. Il avait
un amour de l'orchestre plus pour au cinéma, vous voyez, cette espèce de son très très épique, très puissant, qui lui va très très bien, avec sa voix héroïque et opératique, j'allais dire. Donc du coup, c'était l'idée de soigner, de faire quelque chose, d'aller au bout de cette histoire. Donc le Diego là, il prend sa source en 98 et puis sur 20 ans, et là on l'a travaillé, bien sûr.
Prochaine étape, vous allez faire quoi après? Très rapidement, dans la même interview au Parisien, c'était le 4 janvier, vous regrettez qu'on fasse pas assez de mélanges musicaux en France, et trois questions plus loin, vous dites que vous voulez revenir à la musique classique pure et dure, donc je me dis, il faudrait savoir, vous allez faire quoi le coup d'après?
Vous êtes au cœur de ma vie et de mes problèmes, je suis tellement gourmand que j'aime tout, mais et en fait, quand je dis la musique classique, c'est vraiment la musique classique parce que c'est mon ADN, et le mélange autour de l'orchestre, voilà, c'est les deux choses qui me passionnent, musique classique et le piano, et l'orchestre.
Donc on verra ça. Merci beaucoup Yvan Cassard d'avoir été avec nous. Symphonissime, c'est demain soir, samedi, sur France 2 à 21h. Nous on se retrouve lundi pour Culture Média. On va parler du documentaire Meuf de la Cité, qui met en lumière quatre filles qui ont grandi dans les quartiers, comme on dit désormais. Et puis la chanteuse, danseuse pardon, et auteure de la presse Les Chatouilles, c'est Andréa Bescon, qui sort une série de livres pour aider les enfants à parler de tout sans tabou. C'est vraiment d'actualité et de circonstances. Juste après le flash, Anne Romanoff, ça fait du bien. Je vous dis à lundi. Je vous dis salut Yvan Cassard. Bonne
Merci
journée
beaucoup.
Sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.